Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la deuxième édition de Litteramour, le podcast de littérature franco-allemande en compagnie de
Sigurd Brinkmann
et de Clarisse Cosset. Nous allons aujourd'hui vous présenter deux livres, Annette, une épopée d'Anne Weber, à qui a été décerné le prix du livre allemand en automne 2020, et Franz Fanon, un roman graphique de Frédéric Sirier et de Romain Lamy.
La lecture de Fanon m'a aidé à comprendre la France. Et Fanon m'a éclairé, finalement, m'a fait me poser cette question. C'est quoi être français? C'est quoi, à un moment, désirer ne plus être français et ne plus être colonisé?
Quand je lui ai dit que j'allais écrire une épopée, ça l'a pas mal interloqué et perturbé. Elle ne se voit absolument pas comme une héroïne. Elle trouve que ce qu'elle a fait, c'est tout à fait normal et que n'importe qui aurait fait pareil à sa place.
Anne Beaumanoir, que l'on appelle aussi Annette, et Franz Fanon n'avaient tous deux que 17 ans lorsqu'ils décidèrent de lutter contre les forces d'occupation allemandes en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Anne Beaumanoir entra dans la résistance communiste et sauva deux jeunes adolescents juifs à Paris. Franz Fanon, qui était né à la Martinique, s'engagea comme volontaire en 1944 dans les combats en Afrique du Nord. Il était noir et fit l'amère expérience du racisme au sein des forces françaises libres. Après la guerre, Franz Fanon vint à Lyon faire ses études de médecine et de philosophie. Fanon était atteint de leucémie et mourut en décembre 1961. Quelques jours avant son décès, était paru son livre manifeste « Les damnés de la terre » aux éditions Maspero.
Anne Beaumanoir a elle aussi étudié la médecine et s'est engagée pour l'indépendance de l'ancienne colonie française après le début de la guerre d'Algérie. À partir du milieu des années 50, elle fait partie, avec son mari, du réseau Janson. Anne Beaumanoir récoltait des fonds pour soutenir le Front de libération algérien. En 1959, elle fut dénoncée, arrêtée et condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Après une détention provisoire au Baumettes, elle sort pour accoucher et parvient à s'enfuir en Tunisie, où son mari, qui devait la rejoindre avec leurs trois enfants, n'arriva jamais. À Tunis et à Blida, Anne Beaumanoir succède à des postes de médecin que Franz Fanon avait occupés avant elle. Une fois l'Algérie indépendante, le premier président algérien, Ahmed Ben Bella, lui confie la charge de mettre sur pied un système de santé publique moderne.
En 1965, eut lieu en Algérie un coup d'État mené par le ministre de la Défense Houari Boumédiène qui mit fin au gouvernement de Ben Bella. Anne Beaumanoir s'enfuit en Suisse. Comme il n'était pas encore envisageable qu'elle obtienne une amnistie, elle vécut à Genève où elle dirigea, dans l'hôpital universitaire, un service de recherche en neurobiologie jusqu'à sa retraite.
Anne Beaumanoir a aujourd'hui 97 ans et vit à Dieulefit, un village dans la Drôme. C'est là qu'Anne Weber l'a rencontrée il y a de cela quelques années. Après la projection d'un film documentaire de Malte Ludin sur son père, qui avait été un grand criminel de guerre nazie, Anne Beaumanoir se leva et prit la parole. Nous avions prévu de rencontrer Anne Weber à Hanovre, mais les restrictions sanitaires actuelles nous en ont empêchés et nous avons dû nous entretenir avec elle à distance. Elle s'est souvenue du moment précis où elle avait fait la connaissance d'Anne Beaumanoir.
J'ai immédiatement été saisie et fascinée par... Ça a été une sorte de coup de foudre, vraiment, pour cette petite femme si vive et si blanchie par l'âge, les yeux très bleus, lumineux. Et elle a dit, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle a mentionné le fait qu'elle avait été dans la résistance. Et j'ai absolument voulu lui parler plus longuement après, ce que j'ai fait. J'ai pu dîner à côté d'elle et elle a commencé à me raconter son histoire. Et à partir de là, j'ai vraiment voulu en savoir plus et la revoir. Et je suis retournée la voir plusieurs fois. J'ai lu son propre livre, etc. C'était une sorte d'amitié qui a pris naissance à ce moment-là.
De cette amitié est né un livre, un chant à la gloire d'une femme, une femme engagée pour qui la lutte contre l'oppression a été le principe de vie. Avec ses parents, qui étaient eux aussi dans la résistance et avaient aidé à cacher Simone et Daniel Lizobravski, les deux jeunes adolescents juifs qu'Annette avait sauvés à Paris, elle a été déclarée, en 1996, juste parmi les nations, par le mémorial Yad Vashem. Pour Anne Weber, la question s'est rapidement posée de savoir quelle forme donner au livre qu'elle voulait écrire sur Anne Beaumanoir.
En fait, la forme, elle est née à partir d'une interrogation qu'on pourrait lire morale, si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis demandé, mais comment je peux parler, comment je peux raconter la vie de quelqu'un de vivant? Est-ce que je vais pouvoir inventer des choses pour créer une ambiance, romancer, justement inventer des dialogues, lui mettre des mots dans la bouche qu'elle n'a jamais dit? Ça me rebutait, c'était pas possible. Il fallait que je m'en tienne à ce que je pouvais savoir de son histoire. Mais en même temps, je ne suis pas non plus biographe, je n'allais pas non plus écrire un document. Donc à ce moment-là, je me suis souvenue d'une forme littéraire très ancienne qui est l'épopée, qui est la forme littéraire dans laquelle traditionnellement sont racontées, sont chantées les vies des, ou les actes héroïques, hein, les actes téméraires des héros. Et pas tellement ou pas du tout des héroïnes jusqu'ici.
Anne Weber jette un regard particulier sur Annette, à qui elle a consacré son épopée. Un chant qui ne se veut jamais emphatique, mais dont chaque ligne respire l'empathie qu'Anne Weber voue à son héroïne. Nous l'écoutons lire le début de son texte.
Anne Beaumanoir, c'est un des noms qu'elle a. Et elle existe, oui, elle existe bel et bien, et donc ailleurs que dans ses pages, précisément à Dieulefi, une petite ville dans la Drôme. Elle ne croit pas en Dieu. Qu'il croit en elle n'est pas exclu. Si lui existe aussi, il est probable qu'il la fit. Elle est très vieille et en même temps, comme le récit le veut, elle n'est pas née. C'est aujourd'hui, dans sa 96e année, qu'elle vient au monde sur cette feuille blanche et dans ce vide impénétrable qui lentement se remplit de formes et de couleurs, de père, de mer, de ciel, d'eau, de terre. Elle jette ses longs et ronds regards de taupe, tandis que terre et ciel sont phénomènes durables, l'eau va et vient, afflue dans le lit sec de l'Arguenon, où elle redresse deux fois par jour quelques bateaux y reposant depuis des heures sur le flanc. Deux fois par jour, elle retourne dans une mer appelée Manche, bien qu'il ne s'agisse ni d'une manche, ni de rien de creux, plutôt de quelque chose comme un bras. Le bras de mer que l'Atlantique tend vers la mer du Nord. Pendant ce temps, doucement, les bateaux se recouchent sur le ventre. Dans la chambre Cosmos, inhabitée pour l'heure, nagent quatre, parfois six étoiles aux yeux. De même que, dans une chambre obscure, des contours finissent par se détacher et le néant par se remplir, quelques visages commencent à se former autour des astres isolés. Mère. Grand-mère, père. L'enfant, qui s'appelle Anne et qui est appelée Annette, met en branle ses planètes.
Anne Weber admire le courage d'Annette qui a su désobéir aux ordres pour sauver des vies. Mais elle ne l'idéalise pas. On peut dire que d'une certaine manière, elle a réinventé la personne d'Anne Beaumanoir.
Quand je lui ai dit que j'allais écrire une épopée, ça l'a pas mal interloquée et perturbée. Elle ne se voit absolument pas comme une héroïne. Elle trouve que ce qu'elle a fait, c'est tout à fait normal et que n'importe qui aurait fait pareil à sa place. Alors là, je n'étais pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à commencer par moi-même, il y a beaucoup de gens qui n'auraient peut-être pas eu le courage de le faire. Enfin, elle était un peu interloquée et un peu gênée, mais en même temps, elle m'a laissé complètement faire à ma guise. Elle n'a pas voulu que je change des choses, même quand elle a lu, elle a fini par lire le manuscrit achevé, avant la publication. Elle m'a dit que ça lui plaisait beaucoup, que c'était formidable, mais que c'était pas elle. Oui, c'est ton Annette, elle m'a dit, parce que, à la fois, sans doute, évidemment, ce n'est pas elle, ni encore moins elle telle qu'elle se voit elle-même, mais c'est bien elle telle que je la vois moi. Et en plus, elle était gênée parce qu'elle ne se voit pas comme une héroïne.
Patiemment, Anne Weber aborde la question de savoir ce qui amène quelqu'un à résister, à s'opposer à l'oppression où qu'elle soit, à contester les ordres, l'ordre. Qu'est-ce qui fait abandonner le confort d'un chemin tout tracé, une vie de famille paisible et rangée? Le Parti communiste, dont Annette était membre, ne s'intéressait pas à la lutte pour l'indépendance qui avait commencé en 1954 en Algérie. Au contraire de quelques dissidents communistes dont elle faisait partie. La motivation de son engagement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie provenait du fait que l'armée française pratiquait en Algérie des méthodes que la Gestapo avait utilisées en France pendant la période d'occupation. L'armée française torturait. Et pour Annette Beaumanoir, la situation était pire que ce qu'elle avait vécu pendant la guerre, puisque c'était en son nom maintenant, en son nom en tant que Française, que la torture était pratiquée auprès de ceux qui voulaient l'indépendance de leur pays.
Pour Anne Weber, la guerre d'Algérie était un terrain quasiment inconnu avant de se mettre à l'écriture du livre. Il se peut que la façon dont l'Allemagne a traité son histoire et les crimes qu'elle a commis dans le passé ait aidé Anne Weber à aborder le sujet de la guerre d'Algérie. Une guerre qui a fait plus de 500 000 morts, qui n'a été reconnue officiellement comme telle qu'en 1999 et qui commence à prendre sa place dans la littérature française.
Quand j'avais publié il y a quelques années mon livre intitulé Vaterland, qui était plutôt à propos de l'histoire allemande, de mon histoire familiale, mais de l'histoire allemande, je me suis dit que ça ne m'avait été possible que grâce à ma distance par rapport à mon pays d'origine. C'est le fait d'être éloigné, d'avoir un regard extérieur, distancié. Ça m'a beaucoup aidé. Enfin, je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire. Ça aurait été un tout autre livre, en tout cas. Si j'étais restée en Allemagne. Et en France, cette distance, je n'ai pas besoin de m'éloigner de France pour l'avoir, parce que je ne suis pas née en France, je n'ai pas grandi en France et je n'ai pas eu de socialisation française. Donc toutes ces questions me sont beaucoup plus extérieures. Je n'ai pas vécu ça dans ma chair, la guerre d'Algérie, mais comme j'ai vécu, je vis toute cette période du national-socialisme, vraiment, je le vis presque au quotidien. Je pense à ce passé-là. Non, peut-être pas quotidiennement, mais c'est quelque chose qui est tout le temps présent et qui est très profond, alors que l'histoire française m'est beaucoup plus lointaine, évidemment. Et donc, ça a pu aider. Je crois que c'est bénéfique.
Les méthodes employées par le pouvoir deviennent de plus en plus atroces et on se demande comment l'héroïne du livre a pu l'ignorer. Anne Weber souhaite décrire et questionner les étapes d'une vie hors du commun. Elle ne veut pas apporter de critique, ni sur la société française, ni sur la personne d'Anne Beaumanoir. Les lecteurs sont libres de se faire leur propre opinion.
Une particularité du livre « Annette, une épopée » d'Anne Weber est qu'il est sorti parallèlement en allemand et en français, car Anne Weber écrit elle-même les deux versions de son livre, l'une en allemand, l'autre en français, qui ont paru l'une aux éditions du Seuil, l'autre chez Matthes und Seitz.
J'ai commencé par écrire en allemand parce que c'était ma langue maternelle, j'en avais pas d'autre quand j'étais jeune fille, même adolescente. Puis j'ai continué en allemand encore en arrivant en France. Mais au bout de quelques années de vie en France, je me suis mise à écrire en français. Ce n'était pas publié. Et le premier manuscrit que j'ai envoyé à un éditeur au Seuil et qui a fini par être accepté, enfin c'est le deuxième qui a été accepté, c'était un manuscrit en français. Et après, j'ai fait une version allemande, d'abord pour mes amis et ma famille en Allemagne qui me demandaient « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ?» Et après, ça a été publié en Allemagne. Et depuis, je fais toujours deux versions. Mais au bout du deuxième ou troisième livre, je me suis mise à inverser l'ordre et à revenir à l'allemand, à ma langue maternelle, comme première langue d'écriture. Mais je continue à écrire deux versions. J'écris le texte français ensuite.
Benjamin Stora avait 12 ans lorsque sa famille quitta l'Algérie pour toujours. Originaire de Constantine, Benjamin Stora fait partie des historiens spécialistes de l'Algérie. C'est à lui qu'Emmanuel Macron a confié la charge d'étudier les questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Benjamin Stora a rendu son rapport le 20 janvier 2021. À l'heure où nous enregistrons, quelques réactions sont venues d'Algérie qui déplorent l'absence d'excuses formelles de la part de la France pour les crimes de colonisation et de guerre commis en Algérie depuis 1830. Dans le chapitre « Algérie, l'impossible oubli », Benjamin Stora aborde les effets de mémoire. Il cite un extrait du texte « Le pardon peut-il guérir » de Paul Ricoeur. Ne peut-on pas dire que certains peuples souffrent d'un trop de mémoire, comme s'ils étaient hantés par le souvenir des humiliations subies lors d'un passé et aussi par celui des gloires lointaines ? Mais ne peut-on pas dire au contraire que d'autres peuples souffrent d'un défaut de mémoire, comme s'ils fuyaient devant la hantise de leur propre passé ?
Benjamin Stora cite également un extrait du roman « Nejma » de Kateb Yassine. Ce sont des âmes d'ancêtres qui nous occupent, substituant leur drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience d'orphelin ligotée à leur ombre de plus en plus pâle, cette ombre impossible à boire ou à déraciner. L'ombre des pères, des juges, des guides que nous suivons à la trace en dépit de notre chemin.
Le rapport Stora a pour but, je cite, « d'ouvrir des possibilités de passerelles sur des sujets toujours sensibles, mais permettant d'avancer, de faire des pas ensemble. La question des archives, le problème des disparus, les formes de caractérisation du fait colonial et l'importance des images. Dans cette recherche, j'ai choisi, c'est Benjamin Stora qui parle, quatre sujets qui me paraissent délicats, permettant de dire que nous pouvons, ensemble, affronter ce passé difficile. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf.
Avait écrit Fanon dans « Les damnés de la terre ». Son livre a été lu comme un manifeste de la révolution anticolonialiste, comme un bréviaire de la lutte armée contre l'oppression coloniale dans le monde entier.
En août 1961, Sartre, Simone de Beauvoir et leur ami et collègue Claude Lanzmann vinrent rencontrer Frantz Fanon à Rome et passèrent 3 jours intenses avec lui. Cette rencontre est l'objet du roman graphique de l'écrivain Frédéric Sirier et du dessinateur Romain Lamy. Le livre, qui porte sobrement le titre « Frantz Fanon », est un résumé dense de la vie de celui-ci, qui était écrivain, dramaturge, psychiatre praticien, promoteur d'une psychiatrie inclusive et de la social-thérapie, théoricien de la libération des colonisés. Frédéric Sirier nous explique pourquoi Frantz Fanon tenait tant à ce que Sartre écrive la préface de son livre « Les damnés de la terre ».
Fanon a été formé dans la grande culture européenne et est l'héritier des Lumières, singulièrement de la question de l'universalisme à la française. Fanon est un écrivain, profondément, pour comprendre Fanon, il faut vraiment avoir ça en tête. Fanon est un écrivain qui a mis toute son énergie de créateur dans le concept ultérieurement, après avoir abandonné le théâtre. Donc, en fait, Sartre, en tant qu'écrivain engagé, en tant que turiféraire de la phénoménologie, qui a bercé, finalement, l'esprit, la formation intellectuelle de Fanon, entend surtout que intellectuel numéro 1 en France qui a pris fait et cause pour l'Algérie ne peut que le séduire. Fanon est un homme auquel on a souvent dit non. Des écrivains, notamment Aimé Césaire, ont refusé de préfacer son livre de 1959 qui s'appelle « L'an 5 de la révolution algérienne » et qui vaut comme bilan, finalement, du processus de transformation de la société dans le moment où l'Algérie commence à prendre, mine de rien, son indépendance dans les faits. Donc là, on est en 1961, Fanon est malade, il fréquente de temps en temps Claude Lanzmann, qui lui a une relation directe avec Sartre au temps moderne. Je pense que Fanon, non seulement partage un espoir avec Sartre, voilà, celui de l'Algérie indépendante, mais surtout il espère que Sartre va lui donner une caisse de résonance. Il ne faut pas oublier que Sartre est mondialement connu à l'époque.
Pour Fanon et Sartre, il était clair que la vie des colonisés ne pouvait émerger que du cadavre du colonisateur. Une des phrases les plus citées de la préface de Sartre est la suivante. « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Reste un homme mort et un homme libre. » Fanon espérait-il que Sartre formulerait ses positions dans la lutte anticolonialiste plus crûment que lui ?
Je pense que Fanon attendait surtout un engagement de Sartre et finalement un éclairage intellectuel du point de vue du plus grand des intellectuels français, selon lui. La réception de la préface s'est faite à l'hôpital de Bethesda en banlieue de Washington au moment où Fanon allait mourir, au début décembre 1961. Le livre « Les damnés de la terre » vient de paraître fin novembre, a déjà été censuré en France. Fanon ne s'est jamais explicitement positionné. On a pu dire qu'il n'avait pas, ou que moyennement, apprécié la préface de Sartre, mais là-dessus, on n'a pas d'argument. Je ne pense pas du tout que Fanon ait attendu une quelconque violence chez Sartre. La chose est la suivante, c'est que la préface de Sartre, on peut la critiquer, c'est un texte absolument extraordinaire, qui comprend parfaitement la logique de Fanon. Le point est le suivant, c'est que Sartre est écrivain, il se met dans une perspective tout de même assez rhétorique, et il veut faire peur, je pense. Il veut impressionner la bourgeoisie socialiste française à travers ce texte. Donc, le prendre au pied de la lettre est problématique. Sartre, il faut savoir l'interpréter aussi dans sa littérarité. Après, il faut bien comprendre que cette préface a fait à la fois, entre guillemets, le succès et le malheur des Damnés de la Terre, puisque, suite à la publication du livre, la préface a rendu le texte célèbre, mais on a vu dans le texte, finalement, de Fanon, dans les Damnés de la Terre, un simple appel au meurtre du colonisé. Et ça, c'est se méprendre. Mais ça, c'est le travail de lecture qui est défaillant. Si on lit bien la préface, Sartre écrit tout à fait que Fanon s'adresse non pas aux Européens, mais à ses frères colonisés. Ce qui est fort différent. Après, il est vrai que la préface de Sartre occulte, fait écran, d'une certaine manière, à la compréhension extrêmement complexe de la notion de violence chez Frantz Fanon, puisque chez Fanon, la violence est un processus. C'est tout d'abord l'intériorisation de la violence liée à la colonisation, c'est la violence du colon qui est intériorisée, et c'est peu à peu une prise de distance avec cette propre violence qui conduit à une sorte de libération pour sortir de l'asphyxie coloniale. La violence n'est jamais chez Fanon une finalité, une fin en soi, mais qu'on soit clair, Sartre ne s'est jamais retiré de sa condition de Français et d'Européen. Nous le disons d'ailleurs dans le texte du roman graphique. Quand Fanon lui dit de venir s'engager pleinement à ses côtés, Sartre lui répond, on le sait aujourd'hui à travers les témoignages notamment de Simone de Beauvoir, Sartre lui dit « Je suis absolument pour une Algérie indépendante, mais profondément, je suis français ».
Quand on parle de Fanon, on pense d'abord au théoricien de la libération qu'il était. Ce que votre livre m'a fait découvrir, c'est Fanon le psychiatre, qui a beaucoup appris du psychanalyste François Tosquelles, qui avait fondé une université à Barcelone et avait soigné les soldats républicains sur le front avant de fuir l'Espagne franquiste en 1940. Il exerçait sa profession en France et a initié Fanon à la social-thérapie. Vous avez parlé, Frédéric Sérier, avec les enfants de Frantz Fanon et quelques personnes qui l'ont connu. Qu'est-ce que toutes vos recherches sur sa personnalité, son héritage et la mémoire de la famille vous ont appris ?
Ça a été une grande, grande aventure. Ça a été effectivement le contact avec de nombreux acteurs et quelques survivants de cette époque, notamment avec la fréquentation de Marie-Jeanne Manuelan, qui était une femme extraordinaire, qui est morte en août 2019, et qui était donc l'assistante de Fanon à l'hôpital de Tunis, et qui est la personne qui a tapé les Damnés de la Terre. Et en fait, j'ai eu une relation très forte avec cette femme, avec laquelle on a passé un certain nombre de temps, et qui nous a vraiment décrit l'état dans lequel était Fanon, son état psychologique, et sa passion philosophique. Je dirais deux choses concernant Fanon. Tout d'abord, moi je suis écrivain. Je ne pense pas que je me serais permis d'écrire sur lui si je n'avais pas senti chez lui quelqu'un qui résonne et qui travaille et qui est traversé par le langage comme l'est un écrivain. S'il avait été purement philosophe, je serais resté à ma place et je pense que je n'aurais pas eu aucune légitimité finalement pour parler de lui. Moi je ne suis pas philosophe, je suis un homme peut-être de mots, de langage. Fanon est un homme pur, d'une certaine manière, au sens où c'est pas du tout un Robespierre, un coupeur de tête. C'est un homme sans compromission, c'est un homme d'une grande candeur. On peut considérer qu'il est dur, mais la dureté vient avec le temps. Deuxième chose que je dirais sur Fanon, avec effectivement tous ces gens que j'ai pu côtoyer, tous ces gens que j'ai pu interroger en Algérie, en Martinique, en métropole, c'est à quel point la lecture de Fanon m'a aidé à comprendre la France. Et des aspects de la France, que tout étant français, un français, je dirais, standard. Vous voyez, je suis blanc, j'ai fait l'école républicaine. Et Fanon m'a aidé à comprendre davantage encore la périphérie. La périphérie qui est une question importante pour moi, parce que moi-même, je viens du littoral, j'ai toujours habité en bord de mer. Et Fanon m'a éclairé, finalement, m'a fait me poser cette question. C'est quoi être français ? C'est quoi, à un moment, désirer ne plus être français ? Et ne plus être colonisé, et ne plus dépendre d'un système de représentation et d'un système d'oppression politique qui m'objective. et qui m'empêche d'être moi-même, d'être libre. Voilà ce que je dirais sur Fanon. C'est profondément, je dirais, moins un penseur de la violence qu'un penseur de la désaliénation et donc un penseur de la liberté.
Fanon, Sartre, Lanzmann et Simone de Beauvoir se parlent tout le temps, à part les discussions, les repas au restaurant ou les petites balades. Il ne se passe strictement rien à Rome pendant les 3 jours de leur rencontre. C'est pourquoi Romain Lamy dessine leur visage et leur posture. Il révèle des traits bien individuels. Est-ce que vous, Frédéric Sirier, vous avez pu reconnaître une facette de la personnalité de Fanon qui fut dominante?
Il y a une grande tendresse de Fanon dans ses écrits de jeunesse qui interroge donc l'identité noire d'un jeune Antillais français dans Peau noire, masque blanc et quelque chose de beaucoup plus dur, intransigeant. Je dirais qu'il est explosif au moment où le rencontre Sartre à Rome. Il faut savoir qu'il est malade, il est atteint d'une leucémie, donc le temps est compté. Et au printemps 1962, il y a les accords d'Évian, c'est-à-dire la signature du processus d'indépendance algérienne qui est engagée. Donc si vous voulez, Fanon a cette aptitude à être là, partout où il faut être, finalement, en relation avec le sens de l'histoire. On a parlé tout à l'heure de sa formation psychiatrique, on ne comprend pas Fanon si on ne comprend pas qu'il est avant tout psychiatre. Et toute la bande dessinée est vraiment centrée là-dessus, et je pense que nos pages, les plus, je l'espère, les plus novatrices, montrent vraiment avec précision la formation et le travail de Fanon concret, une fois qu'il a été formé à une psychiatrie d'avant-garde à Saint-Alban, effectivement, au contact de François Toscaillès. Mais à chaque fois, Fanon se trouve là où il faut être. En ce sens, la rencontre avec Sartre est tragique. Et Fanon va mourir. C'est aussi pour ça que ce huis clos, je l'ai choisi pour poser finalement une structure dramatique. C'est qu'en fait, cette rencontre est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est l'une des plus belles rencontres du XXe siècle. Alors, il faut aussi voir que les deux hommes ont déjà le cuir, la peau extrêmement dure, extrêmement faite. Fanon, évidemment, a vu la trahison au sein du FLN. Son ami Aban Ramdan, qui a théorisé la révolution algérienne, a été assassiné. Des amis à lui, des leaders politiques africains, ont été assassinés. Et Sartre, lui aussi, a perdu des proches, a perdu Camus, même s'il a pu être en conflit intellectuel avec Camus. Il a perdu Nizan, Merleau-Ponty aussi est mort. Donc ce sont deux hommes qui ont déjà vécu, qui sont marqués par le deuil, qui se rencontrent pour une apothéose, finalement, de la vie. Et dans la vie, on fait des grandes rencontres. Et je pense que ça a été une rencontre absolument folle pour Fanon, mais aussi pour Sartre. Et je pense que Sartre ne s'attendait peut-être pas à autant de puissance chez Fanon. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans la bande dessinée.
Qui est paru aux éditions La Découverte. Vous écoutiez Frédéric Sirier, l'auteur du roman graphique Franz Fanon, dans lequel il retrace, avec le dessinateur Romain Lamy, 3 jours décisifs dans la vie du psychiatre, connu aussi pour être un des grands penseurs de l'anticolonialisme. Le 11 mars prochain, Frédéric Sirier va publier Récit B, B comme la lettre de l'alphabet, un recueil de nouvelles dans la série verticale chez Gallimard. Et maintenant, c'est Clarisse qui nous fait part de son coup de cœur.
En préparant notre podcast, j'ai repensé à un livre qui m'avait beaucoup plu lors de sa sortie, il y a de cela une dizaine d'années. Mon coup de cœur va donc à De Gaulle und ich, De Gaulle et moi, le livre d'Isabelle Azoulay paru en 2008 aux éditions Elfenbein et qui n'existe jusqu'à aujourd'hui que dans sa version allemande. Isabelle Azoulay est sociologue, thérapeute et à 16 heures écrivaine. Elle a grandi à Paris et vit maintenant à Berlin. Elle écrit en allemand. Sa mère était allemande, son père est originaire du Maroc et vient d'une famille séfarade qui a dû quitter Casablanca après l'indépendance du pays en 1956. Isabelle Azoulay a recueilli dans son livre des fragments d'une vie disparue, celle des Juifs du Maroc, avant l'indépendance et l'exil, soit vers la France, soit pour la plus grande majorité d'entre eux vers Israël. Le narrateur est Marcel, un jeune garçon très observateur et coquin qui nous fait partager son quotidien dans une langue poétique et parfois enfantine. Quant à De Gaulle, il ne fait son apparition qu'à la dernière page du livre, tel un fantôme dans lequel sont rassemblés tous les espoirs que Marcel et sa famille mettent dans la grande promesse que représente pour eux le mot « France ».
J'ai l'impression que c'est comme si tu marches dans un grenier et tu trébuches sur une vieille valise et tu l'ouvres et il y a des souvenirs, des photos, des lettres qui te viennent et qui, comme des madeleines proustiennes qui s'enfileraient comme les perles d'un collier, Et en fait, c'est tout un pan de souvenirs, un pan d'histoire qui m'est revenu. Et ce qui était presque troublant, c'est que pendant très longtemps, je ne savais pas que j'avais en moi ces souvenirs-là. C'est comme si je découvrais des histoires. Alors, c'est bien sûr double, parce qu'en même temps, il y a une grande familiarité. On sait très bien que c'est des souvenirs qui me sont propres. Et en même temps, c'est presque nouveau, parce que pendant très longtemps, je les avais mis dans mes archives de mon inconscient, je ne sais pas où, et ça n'avait pas du tout été présent. Alors, ce qui est fascinant et pourquoi, en fait, c'en est devenu finalement un projet d'écriture, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la mémoire. Et en fait, comment nous nous construisons, bien entendu, autour de la mémoire, aussi de la mémoire de nos parents et de nos grands-parents. Parce qu'en fait, les souvenirs qui me sont revenus, comme d'une vieille valoche, comme ça, c'était pas mes souvenirs à moi. C'était des gens qui se sont racontés leurs souvenirs quand j'étais toute petite. Et donc, c'était le souvenir de souvenirs d'autres personnes. Parce que moi, je ne suis pas née au Maroc. Moi, je suis née d'ailleurs en Allemagne du Nord. Je suis venue à Paris bébé. Et en fait, je me sentais française et j'ai grandi en France. Je n'ai presque pas fait de recherche pour écrire De Gaulle et moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment des atmosphères, des ambiances qui se sont... Ma famille, qui est arrivée à Paris dans les années 50, ils se sont tellement racontés comment était la vie au Maroc que c'en est devenu une réalité propre que j'ai respirée, que j'ai entendue quand j'étais toute petite et que, après ça, j'ai oublié pendant très, très, très longtemps.
Isabelle Azoulay nous parlait de son livre « De Gaulle und ich » paru aux éditions Elfenbein. Nous voici arrivés à la fin du deuxième épisode de Litteramour, notre podcast de littérature franco-allemande. Il a été réalisé grâce à la précieuse aide de Jean Chimchak à la technique.
Le 15 mars prochain, nous vous ferons partager notre rencontre avec Margarete Zimmermann, une des deux éditrices de l'anthologie de textes littéraires français. Berlin bewegt sich schneller als ich schreibe. Berlin bouge plus vite que je n'écris. Et nous allons demander à Dmitri Kapitelmann de nous parler de son roman tragicomique « Eine Formalie in Kiew ».
D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à le commenter si vous en avez envie. Ou à venir consulter notre site internet litteramour.com, litteramour avec deux T, un accent aigu et un S, parce que nous aimons au pluriel. C'était Clarisse Cosset et
Sigrid Brinkmann.
Thank you.